Bienvenue sur notre podcast Match après match.
Le débrief, les coups de cœur, les coups de gueule, les critiques, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Tous les dimanches après la Super League, vous avez rendez-vous avec Match après match. Bonsoir, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Bluezoom. Salut à vous qui avez choisi plutôt notre page YouTube. Et puis bonjour à toi si tu nous écoutes en podcast à partir de tous les lundis matins. Le débrief ce soir, c'est avec Vincent Rigolet, avec Lucien Denervaux et avec Hugo Imsand. Salut Hugo, la dernière fois que tu es venu, tu étais venu aux alentours de Noël avec un très très beau pull du Servette FC,
oui,
je me souviens.
Il m'a valu deux, trois blagues, c'est vrai. Trois tacles.
Et là, tu reviens de chez David Guetta, je crois.
Exactement.
C'est juste avec un très très beau pull que je vous conseille de regarder si vous êtes en podcast. Malheureusement, vous ne pouvez pas le voir, mais il est très 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 beau.
Merci, je prends des risques vestimentaires.
Yes, on y va. On se lance, on va évidemment ce soir parler de nos clubs romands, on va parler de Lausanne, on va parler de Servette, le nouveau leader solitaire de Super League. On parlera également d'Yverdon. Mais d'abord, on va aller à Sion parce que Nicolas Ménècre est à Sion avec ses invités. Il nous propose son débrief de la rencontre, la victoire de Sion contre Lugano.
Et oui, à Tourbillon où enfin les sourires sont de retour à l'image de celui de Noé Sow que l'on a vu aujourd'hui évoluer à Mitterrand. On aura l'occasion d'en parler avec lui. Mais tout d'abord, Noé, on imagine l'ambiance dans les vestiaires, c'était plutôt sympa après cette rencontre.
Oui, bien sûr, ça fait du bien de gagner à nouveau. On s'est battu sur le terrain, on a tout donné, donc coach était content, tout le monde est content, donc ouais, ça fait vraiment du bien. Ouais.
Une forme de soulagement quand même, parce que ça se faisait attendre, il y avait eu qu'une seule victoire en 8 matchs ce printemps.
Ouais, bien sûr, c'est ce qu'on disait. On n'était pas forcément en réussite. Il y avait aussi des faits de jeu qui étaient souvent contre nous, mais c'était à nous aussi de faire ce qu'il faut sur le terrain pour inverser la tendance. On a réussi ça aujourd'hui, donc encore une fois, on est vraiment satisfait. Ouais.
Yoann, pourquoi ça a tourné aujourd'hui pour Sion et peut-être pas les rencontres précédentes?
Mais je pense qu'il y a eu les ingrédients qui font la force de FC Sion. On l'a vu contre Zurich aussi, c'est-à-dire la solidarité, l'abnégation, aller sans cesse chercher l'adversaire aussi. On a vu quand même deux mi-temps assez différentes où dans une première mi-temps, il y a eu pas mal de jeux déployés par Lugano et puis après une remise en situation de la part de Didier Tolo. Mais là, je reviens peut-être sur votre poste, moi qui étais un ancien milieu défensif aussi, j'ai apprécié votre performance à ce poste-là. C'est vrai que nous, on n'avait pas l'habitude de vous voir là. Or, on a vu que vous étiez à l'aise et vraiment su plonger dans les pieds des adversaires. Et puis, finalement, on a l'impression que vous avez joué à ce poste-là toute votre vie.
Oui, bien sûr. Bah, en fait, à la base, moi, je suis formé au milieu de terrain. Donc, c'est un poste que j'ai pu jouer quand même auparavant. Et c'est un poste que j'apprécie. Ça me demande des efforts qui sont différents que défenseur central, des qualités qui sont différentes aussi. Après, voilà, je suis un joueur qui est polyvalent, donc ça permet au coach de pouvoir me mettre en défense, de pouvoir me mettre aussi au milieu de terrain. Aujourd'hui, il m'a mis au milieu de terrain, il m'a fait confiance. Après, il savait que je savais jouer à ce poste, donc il n'y a pas de souci pour moi.
Ça vous manquait quand même d'évoluer à ce poste qui semble être tellement naturel quand on voit votre prestation aujourd'hui?
Ça me manquait pas forcément, non. Franchement, après, j'aime bien que deux postes, hein, défenseur central que j'aime aussi. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas joué au milieu de terrain, en tout cas 90 minutes. Donc aujourd'hui, je suis content d'avoir pu retrouver du rythme aussi à ce poste. Ouais.
On va vous retrouver milieu de terrain la prochaine fois. C'est votre souhait?
Non, c'est pas mon souhait personnel. Après, ça c'est le coach qui va décider. Hein. C'est lui qui décide de la compo. En tout cas, s'il me remet au milieu de terrain, moi, je suis prêt à refaire le taf comme aujourd'hui.
Bon, on va reprendre le cours de cette rencontre. On a fait un peu les choses à l'envers. Moi, j'ai retenu un moment clé. Johan, d'accord ou pas, le pénalty raté et ce but qui arrive juste dans la foulée.
Oui, parce que quand on rate un pénalty, forcément dans les têtes des joueurs, dans la tête du tireur de pénalty, mais aussi dans la tête un peu de l'équipe, on se dit mince, on a loupé le coche. Il y a peut-être un inversement de tendance ou quelque chose. Or, c'est vrai, il y a le corner qui arrive direct derrière. Et puis, ça, je pense, ça a fait énormément de bien au niveau de la confiance, surtout.
Ouais, ça montre aussi que en tant que groupe, on est aussi solidaire. Et puis, on a été fort mentalement. Comme vous dites, t'es à 1-1, tu rates un péno, tu peux aussi très bien sombrer un petit peu, exactement. Et au final, c'est pas ce qu'on a fait. On a su réagir, rester concentré. On a su marquer après derrière, rester solide. Donc, je pense que c'est tout à notre honneur aussi d'avoir pu inverser la tendance et rester focus sur le match.
À propos de groupes, c'est pas donné à chaque équipe après une période si difficile que cet aspect de groupe reste, demeure. C'est peut-être ça un enseignement particulier à tirer aussi de la partie d'aujourd'hui ?
Par rapport à ?
Par rapport au groupe, l'équipe est là, même s'il y a eu des moments compliqués au cours des dernières rencontres, des derniers matchs.
Oui, bien sûr. Bah, comme j'ai dit juste avant, ça montre aussi une force de caractère. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné, notamment ici. Et on a quand même joué une équipe, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, qui est supérieure à nous cette saison, qui joue le titre, les premières places depuis le début de saison, et réussir à gagner ici, c'est vraiment une belle performance, et franchement c'est vraiment mérité, je trouve.
Yohann, faut retenir quoi en particulier de cette soirée, fin d'après-midi soirée pour l'EF Session?
Moi je pense qu'aujourd'hui c'était un match, je l'ai dit avant le match, c'était un match charnière, parce que c'est soit on s'orientait sur une défaite et puis là des matchs très difficiles contre les concurrents directs avec peu de marge à jouer. Or là c'était vraiment l'idéal à la maison de passer un cap, de prendre un peu plus de confiance, de prendre un peu plus de marge par rapport aux dernières équipes du fond de tableau. Donc pour moi je pense qu'au niveau confiance là on a vu que le FC Sion a franchi un step. Après, peut-être, comment expliquer la différence de rendement entre le FC Sion à la maison? Puis on a vu qu'à l'extérieur, cette année, c'était compliqué, notamment les 5 derniers matchs, 5 défaites. Comment on voit ça et qu'est-ce qu'il y aurait à modifier de la part de l'état d'esprit?
Je ne sais pas. Je pense que dans tous les cas, on a envie de gagner, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ce qu'il faudrait modifier. Je pense qu'on doit juste tout simplement aborder le match de la même manière et être conquérant. Je pense qu'on est venu aussi ici au début du match. Ça se voyait qu'on avait vraiment envie de les chercher, de les presser haut, de vraiment dominer ce match et pas de subir. Je pense que peut-être qu'à l'extérieur, on a plus tendance à attendre ou en tout cas être moins entreprenant. Donc c'est à nous aussi sur le terrain de se préparer de la même manière, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, et d'essayer de faire les mêmes performances. Ouais.
Bon, avant de retrouver Tourbillon pour y affronter Sion et Winterthur, deux équipes classées derrière, il y aura un bon test contre Grasshopper. Trois prochains matchs contre les trois équipes classées derrière. Quand même d'aller au Letzigrund avec 7 points d'avance plutôt que 4 sur le barragiste, on ne veut pas dire que c'est un soulagement, mais il y a plus de sérénité.
Ouais, bien sûr, il y a plus de sérénité. C'est sûr, ça nous met une petite marge supplémentaire. Après, je pense que si, comme vous dites juste avant, c'est bien aussi pour la confiance. Maintenant, on sait qu'on est capable de faire de belles choses. Et puis, on va aborder ces trois matchs qui sont quand même super importants. On va pas se mentir, avec un élan positif. Et ça c'est vraiment bien pour nous.
Dans trois matchs, on saura si on aura une fin de saison relativement sereine. On y revient, ou s'il faudra lutter jusqu'au bout pour le maintien.
Oui, bien sûr, ça va être à nous de faire ce qu'il faut pour gagner et pour, comme dit le coach, pour voir en haut et pas regarder ce qui se passe derrière. Donc en tout cas, on va se préparer comme il faut, on essaiera de faire ce qu'il faut pour gagner ces matchs et puis d'entamer, on va dire, la fin de championnat avec un état d'esprit positif.
Merci Noesso, merci Yohann. On va retourner dans nos studios à Grange-Paco pour parler de ce FC Sion et de la suite. Le prochain rendez-vous, ça sera dimanche après-midi, ce match si important contre Grasshopper.
Merci beaucoup. On va revenir évidemment sur le FC Sion ici autour de la table, mais on a pas mal de gens qui nous font des compliments vestimentaires. Donc la chemise plaît, a priori la chemise rose de Dani plaît, mais il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment voir ce pull de Hugo, donc montre-le, quoi, voilà.
Le pacha du visa.
Le pacha du visa, c'est Flavio qui sera content. Merci Bemaldinho pour les compliments pour la chemise. Et puis il y a Grégory qui demande qu'on salue les premiers du classement. Évidemment, on parlera du Servette FC dans quelques instants. Alors Sion, on a dit. J'aimerais bien vous entendre sur la thématique du capitanat. Ali Kabakalman, qui était capitaine aujourd'hui à la place de Nouma Lavanchi. Didier Tolo l'a expliqué. Aujourd'hui, il avait envie d'avoir un joueur plus dans le cœur du jeu. Peut-être Lucien, c'est le coach que j'aimerais entendre. C'est vraiment important d'avoir plutôt quelqu'un qui soit là au milieu plutôt que sur les extérieurs.
Est-ce que ça peut apporter plus? Ça dépend quelle est l'intention. Maintenant, je pense que c'est aussi pour changer peut-être une dynamique. Mm-hmm. Elle ne doit pas être si facile à accepter en tant que latéral quand c'est comme ça. Parce que, je veux dire, avec l'expérience qu'il a, Nouma, Lavanchi, ça doit être, ouais, pas difficilement acceptable, mais en tout cas, voilà, ça doit faire un petit peu mal quand même. Mais après, Ali, voilà, il a montré aujourd'hui qu'il devait prendre cette position. C'est plus dans l'axe, peut-être. C'est un choix de coach. Moi, je ne vois pas qu'est-ce que ça change personnellement. Ouais. Moi, je pense que c'est plus pour tourner autour de la peut-être vérité. C'est que, voilà, il voulait changer peut-être une dynamique par rapport au capitanat. Il y avait Schmid qui était le capitaine à la base. Il y avait encore Ziegler. Donc, voilà, ils ne sont plus là, ces deux joueurs. On a passé par l'avant-chute. Et puis maintenant, ben, c'est l'axe qui est choisi. Voilà, c'est un choix.
Moi, ça me dérange un peu.
Vas-y.
Ouais, on a le même avis.
On est d'accord, vas-y.
Je crois parce qu'on cache un peu la merde au chat quand même, là, en disant c'est pas qu'il est gardien ou remplaçant, l'avant-chute.
Et même des gardiens capitaines, il y en a.
Ouais, non, mais là, on nous dit pas la vérité. Alors peut-être que c'est la dynamique, peut-être qu'il n'était pas content du rayonnement de l'avant-chute comme capitaine. Mais je trouve un peu dommage que, justement, je suis d'accord, c'est un choix risqué et le fait de ne pas vraiment l'expliquer, ça crée quelque chose, un flottement qui n'est pas nécessaire. Et je voulais juste souligner le professionnalisme de l'avant-chute qui, ça va pas être facile pour lui. Là, il fait un bon match, je trouve. Aujourd'hui, encore à la fin, il reprend Chouaref qui avait pris un jaune pour dégager le ballon. Il va essayer de le calmer. Il est encore dans son rôle de leader, hyper investi. Donc, je trouve que c'est aussi, il faut le saluer parce que ça doit pas être simple pour lui.
On a vraiment le sentiment qu'il active des manettes. Enfin, Tolo essaie quelque chose pour changer sa dynamique qui était négative. Et bon, aujourd'hui, ça a fonctionné. Alors, je pense pas que c'est le fait d'avoir changé de capitaine, mais ça, il y a quelque chose qui a fonctionné. La vraie explication, pour moi, c'est une explication de vestiaire. Il y a quelque chose dont on n'a pas les tenants et aboutissants, et puis on peut que extrapoler, puis dire « Ah oui, mais finalement, le fait d'avoir enlevé le brassard, c'est peut-être pour déclencher quelque chose, ou alors c'est simplement qu'il n'aimait pas, je ne sais pas, peut-être que l'avant-chute n'avait pas assez d'impact dans le vestiaire pour lui, et il trouvait qu'Ali Kabakalman en avait plus. Mmh. Mais finalement, moi, je pense que c'est un peu risqué, et que ça peut un peu déstabiliser et le groupe, et l'avant-chute. D'ailleurs, je trouve que l'avant-chute fait pas un très très bon match aujourd'hui, peut-être dû à ça. Il y a une deux fois où il se fait avoir, entre autres, deuxième mi-temps, Chimignani, qui a un ballon deuxième poteau, il est tout seul, il l'a oublié. Donc voilà, il y a aussi ça à prendre en compte. C'est un risque pris par Didier Tolo. Est-ce que c'est le bon? Je suis pas convaincu encore.
Au-delà de ça encore,
Ali Kabakalman qui a ce penalty, il a le brassard, il a le ballon pour mettre Sion devant, il le rate.
Il avait mis les deux premiers, hein. Voilà, il n'était pas capitaine à l'époque.
Il y a une petite pression, quoi.
Il avait mis les deux premiers. Dans les changements dont vous parlez, vous avez pas parlé de Berdaïs en neuf ou en faux neuf. Votre jugement sur, pas la prestation de Berdaïs, mais sur le choix de le mettre là.
Bon, bah, ils n'ont pas d'attaquant qui marque. Donc, à un certain moment, il faut aussi faire des choix, essayer autre chose. Alors, il n'a pas marqué aujourd'hui Berdaïs, mais c'est un joueur qui est intelligent et qui peut jouer à tout poste au niveau de l'offensive. Donc, voilà pourquoi le choix Berdaïs. On sait que c'est quelqu'un qui va aussi énormément travailler sans ballon. Il va faire des efforts, il n'y a aucun souci avec ça. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ça a quand même porté ses fruits. Même s'il n'a pas été décisif, bah, tu gagnes quand même. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il récidive de nouveau avec ce même 11 ou en tout cas avec ce même joueur en faux neuf.
C'est pas la seule équipe Super League qui se cherche un attaquant. Hein. Il y en a beaucoup.
Je pense qu'on va, cadeau, on va en reparler une énième fois tout à l'heure.
Non, mais moi, je reviendrai juste quand même sur Tolo quand même. Ça montre aussi quand même, on a toujours dit que l'équipe, ça passait en avant, mais c'est quand même Tolo qui a fait que cette institution, depuis la Challenge jusqu'à la Super League, elle soit bien présente. C'est lui le meneur d'hommes. Mm-hmm. Et c'est lui qui fait les choix. C'est lui qui décide. C'est lui qui montre aussi la voie à aller chercher. Et je pense que ça, c'est aussi un mot fort de sa part en disant, ben, OK, ben, on va changer par rapport à Nouma, etc. Et puis, ben, passer avec Ali Kabakalman. Ben, c'est un choix fort de sa part. Il le fait et ça paye. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est quand même, c'est la bonne personne pour Sion, pour aller de l'avant. Et Sion a bien raison de continuer avec cet entraîneur. Et j'adore, en fait, cette personnalité et puis cet entraîneur.
Il y a Jonas, un des fidèles sur YouTube, qui dit « Je pense que Berdaïs repartira en neuf le week-end prochain. Chouaref sera suspendu, il me semble. » Et puis, il y avait une question qui est... Parce que vous êtes nombreux, vous êtes vraiment nombreux à nous écrire. C'est assez impressionnant, on vous remercie. Il y a quelqu'un qui a parlé de Fayoulou. Est-ce que Fayoulou devrait être remplacé par Lindner?
Sur sa sortie, là, il est un peu abandonné, mais il rate sa sortie. Donc, il est fautif pour moi là-dessus.
Mais jusqu'à le mettre sur le banc? C'était pas vraiment la question. Donc, est-ce qu'on doit mettre Fayoulou sur le banc?
Alors, je sais pas si on doit mettre Fayoulou sur le banc, mais si tu veux activer des mécanismes comme Tolo le fait en changeant de capitaine, alors c'est typiquement ce genre de choix fort qui peut te changer une dynamique. Le problème de Sion, c'était un peu de malchance, et aujourd'hui, ça a un peu tourné à leur avantage. C'était peut-être plus offensivement que défensivement, même si Tolo est toujours en train de chercher la bonne formule. au final, est-ce que Fayoulou est indéboulonnable au FC Sion? Je ne suis pas 100% convaincu, même si on ne peut pas lui reprocher toutes les défaites que Sion a subies ces derniers temps.
Ouais. Non, c'est clairement pas un des fautifs, mais je te rejoins, ça peut provoquer... ça peut être un déclic de plus pour la prochaine fois, un fusible de plus.
Mais ouais. Là, en l'occurrence, ils ont gagné, donc... Peut-être qu'il ne va pas activer grand-chose.
Sur Kabak Alman, il y a encore Colin qui nous dit peut-être que c'est convenu entre le club et Kabak Alman en prolongeant son contrat à l'histoire du Capitana. Je ne suis pas convaincu de ça.
Ça m'étonnerait qu'Ali Kabak Alman ait demandé une clause dans son contrat pour récupérer le brassard.
Je ne pense pas. Il est pas vraiment, c'est pas vraiment le genre de gars. Et puis en plus, d'ailleurs, il sort sur blessure. Il faudra prendre des nouvelles d'Ali Kabak Alman. Je vous propose de passer à la suite parce qu'on aimerait parler d'autres clubs. Romans, Sion, qui a obtenu donc sa deuxième victoire de l'année 2025. 7 points pour Sion, comme pour Lausanne, qui a perdu une nouvelle fois hier à Berne, 3-0. Je vous propose de vous donner peut-être juste mon avis comme ça. Donc on est quand même sur une équipe qui, à mon avis... est en vie. Moi, je ne vois pas de signe de détresse dans cette équipe du LS. Je trouve que le score est sévère. J'ai vu une équipe en vie presque jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à la 78e, jusqu'au 2-0. Alors, comment maintenant il faut redresser la barre pour obtenir des résultats? Parce que les prestations sont bonnes, souvent convaincantes. Il y a des défauts, évidemment. Mais comment on redresse la barre maintenant?
Bon, là, tu ressors quand même d'une défaite 3-0 à IB. Après, maintenant, l'objectif final... de Lausanne, c'est le top 6. Ils y sont pas loin, ils y sont presque. Je pense que beaucoup de monde s'est vu beaucoup trop beau à la pause. Et puis la réalité, elle revient. Après, il y a quand même eu le joueur offensif qui faisait vraiment la différence à Lausanne, c'est Sanchez. Et c'est vrai que là, il est un peu moins en réussite, et puis automatiquement, il y a moins de goals qui arrivent. Et puis, ça se fait moins la différence. Mmh. Et ça continue avec Aydini, ça continue avec Sen, ça marque pas. Okou, Baldé, on attendait peut-être un tout petit peu plus aussi de son retour.
Bon, il n'a pas un énorme temps de jeu non plus.
C'est ça, c'est vrai, mais par contre, sur les 30 minutes ou 40 minutes qu'il a, ou 15 minutes, 20 minutes, il n'y a pas de différence non plus, tu vois. Mmh. Et puis, c'est ça qu'on attend un tout petit peu plus. Et je pense que pour moi, c'est quand même la clé, c'est quand même Sanchez. Et puis, il y a quand même un départ qui a été important au milieu de terrain.
De Bernad.
Merci, de Bernad, qui pour moi avait quand même. Qui était hyper important à Lausanne.
Bon, c'est pas une cata d'aller perdre à IB hein. Récemment. IB, c'est 9 victoires en 10 matchs à la maison. Un seul match nul, c'est le 0-0 contre Winterthur.
Ouais, ils ont fait 28 points sur 30.
Aller perdre à IB, c'est pas si grave. Après, le résultat.
C'est l'enchaînement.
Ouais, c'est ça. Le résultat hier, il est hyper sévère. Si tu regardes le match, il y a deux erreurs individuelles à Lausanne. C'est celle de Dussen sur le 1-0, celle de Castella sur le 2-0 qui repousse le ballon devant lui au lieu de l'écarter. Mmh. Et au final, tu prends 3-0. C'est malheureux pour Lausanne parce que moi, le sentiment que j'ai, c'est un peu le même que contre Servette le week-end dernier, c'est que c'est une équipe qui se décourage au fil du match. C'est-à-dire qu'il y a des envies. Hier, ça a combiné un peu moins bien contre Servette. Franchement, ils avaient fait une magnifique première mi-temps à la Tuilière contre Servette pour moi. Là, c'était un peu moins fluide, mais ils étaient dans le match. Et puis, petit à petit, il y a ce but encaissé, ce deuxième but encaissé. Et puis là, l'équipe, elle lâche. Alors, je ne sais pas si eux, ils le vivent de la même manière, mais vu de l'extérieur, c'est un peu ça. Puis on se dit, ils peuvent encore jouer une demi-heure, ils ne marqueront pas.
Je rebondis là-dessus parce qu'on est quand même sur un deuxième match consécutif sans but marqué. Mmh. Et les gens se demandent, voilà. T'as dit plein de noms tout à l'heure et encore une fois, il y a Oviedo qui est pas cité dans ce que tu dis. On le voit. Moi, je trouve qu'on le voit pas assez souvent. J'aimerais bien le voir une fois. Je sais pas, commencer un match ou le voir.
C'est vrai qu'il était un peu dans ce rôle Solskjaer de la Tuilière.
Ça arrive. Ouais. Ah, il est bon.
Mais c'est vrai qu'il pourrait être intéressant. C'est quelqu'un qui se bat, qui est vraiment teigneux comme ça, très argentin, elle disait aussi.
La semaine dernière.
Ouais, c'est ça. Donc on sent ça et ça doit être quelqu'un qui ça doit être vraiment horrible de défendre contre lui. Donc il faudrait lui donner sa chance, je suis d'accord. Ouais.
Et puis peut-être par rapport à tout ce qu'on a dit sur le fait que Lausanne ne marque pas, sur le fait, tu dis que des gens se sont peut-être vus trop beaux à Noël, je ne sais pas à qui tu penses. Moi, c'est les supporters des fois que je trouve un peu sévères, un peu durs avec cette équipe, de les traiter de clowns déjà, puis de dire que c'est honteux, puis que c'est scandaleux de perdre 3-0 contre IB.
Ça ne l'est pas.
Mais ça l'est pas. Et c'est là sur Lausanne sur tous ses matchs en 2025, j'ai regardé, n'a perdu que des matchs avec un but d'écart. Que là c'est la seule exception samedi soir. Et j'ai toujours trouvé que quand ça va mal, même dans la vie privée de quelqu'un, en fait, en vrai, tu as envie que les gens soient proches de toi, que les gens t'aident, que les gens viennent te soutenir. Et souvent, je trouve que ce n'est pas le cas à Lausanne. Et je trouve ça tellement dommage.
C'est sévère, mais franchement, le match, encore une fois, on va prendre l'exemple de Sion aujourd'hui, on dit « Aïgan, bravo, super match, machin ». Je veux dire, Papadopoulos, ça volait, il la met dans la lucarne et pas sur le poteau, et puis c'est encore 2 points de perdu pour Sion. Hier, Roach, il tire sur la latte, il y a Keller, il la touche du bout des doigts, elle va sur la latte, elle tape par terre, elle ressort, il marque pas. Encore Roach sur corner, deuxième poteau, il contrôle, il fait le geste juste, il bat Keller cette fois-ci, mais il y a Eaton qui est sur la ligne. Je veux dire, c'est aussi des questions de réussite, et c'est malheureux, mais le foot, c'est ça, c'est un peu de réussite, un peu de chance, et puis en fait, Lausanne se retrouve, reste dans ce top 6 qu'ils ont quitté pour la première fois depuis 4 mois.
Oui, mais je trouve que pour le moment, si moi je regarde les dernières équipes qui ont été dans le dur, je sais pas.
Lugano.
Non, mais Lugano aujourd'hui, d'accord. Lugano aujourd'hui, ça va être un contre-exemple, donc je le prends pas. Okay. Non, mais Zurich a été dans le dur. Ces dernières années, hein, Bâle a été dans le dur. IB a été dans le dur cette saison. Les supporters sont quand même là. Les mecs, ils se déplacent, ils vont, ils les suivent.
Ça veut pas dire qu'ils les critiquent pas. Hein.
Mais non, je dis pas. Mais t'as quand même des mecs qui sont là et.
Oui.
Bon,
oui,
hier à Berne, il y a du monde. Hein.
Il y a du monde.
Le parquage extérieur de Lausanne, il y a du monde. Les gens sont venus.
Mais je trouve dommage. Je trouve qu'il y a quand même une certaine impatience. Et je trouve effectivement que Lausanne a toujours dit, les dirigeants du LS ont toujours dit, on vise un top 6. Les mêmes qui critiquent aujourd'hui, c'est à peu près ceux qui se marraient quand en juillet, Vincent Steinmann et Stéphane Onchaud sont venus dire qu'ils voulaient faire top 6. Donc d'abord, ils se marrent. Puis ensuite, ils trouvent que c'est un scandale d'être à peu près 6, 7, 8 maintenant. Ouais, c'est dommage.
Parce qu'ils ont vu la dynamique qu'il y avait au mois de novembre-décembre, qui était extraordinaire, où ils ont été battre Lugano à la dernière journée, alors que Lugano était loin devant. Tous des matchs comme ça, ils ont ça en tête. Ils ont oublié ce qui s'est passé avant. Et puis, ils savent qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Maintenant, c'est une dynamique qui est un petit peu moins bonne à l'heure actuelle pour Lausanne. Mais voilà, leur objectif, il est toujours atteignable. Je pense qu'ils peuvent même réussir à l'atteindre à la fin de l'année. Donc c'est un passage un tout petit peu plus difficile, mais qui est en train de se gérer. Et puis à la fin, c'est clair que quand ils vont recommencer à mettre ses buts, parce qu'il y a cette période aussi plus faste, qui est plus présente, et puis il faut retourner cette situation à toi. Quoi.
Ouais. Ils vont hier à Berne en étant courageux, en jouant le jeu de Lausanne, en jouant haut, en allant presser, alors que Yverdon et Sion, ils ont pris 2 saves quand ils ont même essayé de défendre au Wangdorf. Donc au final, c'est cette réussite qui te manque, mais l'envie et le jeu est toujours là. Mais c'est ce qu'on dit depuis plusieurs semaines maintenant, hein, depuis l'année 2025, Lausanne a moins cette réussite qu'ils avaient avant.
Mais je crois quand même qu'il y a une part de frustration aussi.
Bien sûr.
Chez Sanchez, il y avait avant cette insouciance où il tentait des trucs, les matchs tournaient, le match à Lugano, c'est vraiment l'exemple parfait. Et puis là, il y a quelque chose qui s'est cassé, c'est peut-être le mot un peu fort, mais ils ont quelque chose en moins.
Hier, c'est beaucoup, beaucoup de mauvais choix dans la dernière passe, l'avant-dernière passe.
Parce que tu réfléchis.
Ben c'est ça, parce qu'en fait, ils commencent à trop gamberger et ils se mettent en difficulté.
Il y a beaucoup de gens qui sont en train de parler de Sanchez là, dans le chat. Je pense qu'il a la tête ailleurs. Lausanne sans Sanchez, c'est une équipe normale. Ça parle beaucoup de Sanchez. Alors, Lucien, qu'est-ce qui se passe avec Alvin Sanchez?
Mais rien du tout. C'est tout simplement, il a le droit. C'est un humain. Et puis, c'est aussi les équipes adverses. Maintenant, ils disent, c'est le joueur dangereux. C'est lui qu'il faut surveiller. Et puis, maintenant, c'est à lui de trouver les solutions pour être moins surveillé ou de faire la différence.
Il y a quoi comme solution, par exemple?
C'est se démarquer. Un bon joueur, il arrivera toujours à se démarquer dans les situations, dans les bonnes situations. Et puis, de toute manière, les goals qu'il a mis, la plupart du temps, c'est aussi souvent des slaloms entre 3, 4, 5 joueurs. Et puis, il a réussi à la mettre au fond. Donc, son foot, il ne l'a pas perdu. Il n'a pas du tout la tête ailleurs. Il faut complètement oublier. C'est que tout simplement, on attend beaucoup de lui aussi. Hein. Il va pouvoir faire la différence. Au prochain match.
Et c'est aussi possible que ses coéquipiers se reposent aussi beaucoup sur lui. C'est-à-dire attendre que lui, il crée le truc génial. Et puis, moi, je ne fais pas la course. Ou moi, je reste de mon côté. Et puis, je vais suivre au deuxième poteau si jamais il y a un rebond ou un truc. Et c'est vrai que je pense que ses coéquipiers attendent aussi beaucoup de lui. Mais en même temps, c'est un joueur spécial. Hein, on l'a tous vu, quoi.
Hugo ? Il m'a semblé à Berne, il y avait sur une deux courses, un deux replis défensifs. Il était moins enseignant qu'il l'a été.
Ça, c'est vrai.
Donc, je pense
qu'il fait un peu la gueule.
Je pense qu'il doit commencer aussi à gamberger, et puis il est jeune, on attend beaucoup de lui.
Je pense que aussi peut-être qu'il a un peu beaucoup de choses en tête. Je dis pas qu'il pense à d'autres clubs, mais je dis qu'il y a beaucoup de. Ça doit pas être facile pour lui de se concentrer sur son jeu, de retrouver cette simplicité, ce plaisir de jouer. On a l'impression qu'il jouait en bas de chez lui et qu'il driblait trois voisins sur le City Stade. Et ça il l'a un peu perdu. Donc je pense que c'est pas qu'il pense qu'il se voit, il se dit ah je pourrais être en Serie A, C'est pas ça, mais c'est qu'il a perdu cette. Il y a un peu de la ligne un peu brouillée, je pense.
Ça fait un peu partie de son apprentissage en fait aussi, oui, de cette frustration. De pas arriver à marquer, faire la diff à chaque match.
Mais on peut retrouver ça. Ouais, justement, dans cet apprentissage, comment tu
Moi, j'ai pas joué à ce niveau-là, Dani.
Mais qu'est-ce que tu imagines avec tous les matchs qu'on voit? Moi, je me dis, je sais pas, parce que je vois aussi. J'ai assez d'accord
mais
avec
c'est
ce que
c'est un peu de lâcher
dites,
prise en fait. Je pense que c'est un peu plaisir, ça. Ouais, c'est un peu retrouver le plaisir, un peu lâcher prise, un peu arrêter de se mettre cette pression-là, parce qu'il se la met aussi, hein, cette pression-là. Je dois faire la diff en fait. C'est une pression qu'il doit se mettre lui-même.
Mais il y a aussi, j'ai l'impression, en face maintenant des coachs, des équipes qui ont compris que c'était le joueur à surveiller.
Et la manière de jouer de Lausanne. Quand,
effectivement, voilà, la manière de jouer de Lausanne. Sanchez qui va essayer. Voilà, et exactement. Il est beaucoup recherché par ses coéquipiers. Mm-hmm. Et il y a aussi souvent des dédoublements là, sur lui. Franchement, des fois, ils viennent à deux. Ils lui laissent beaucoup moins d'espace qu'avant. Oui, évidemment. Mais quand tu as moins de place, quand tu as moins d'espace, tu ne peux pas utiliser malgré cette nonchalance qu'il a, je trouve que c'est quand même un joueur assez rapide et il ne peut pas prendre cette vitesse pour aller pour se libérer. Puis on voit,
du coup, tu t'appuies un peu plus sur Diabaté, un peu plus sur Okou, un peu plus sur Sen, Aydini ou Oviedo qui vont jouer devant. Tu as aussi besoin de cet appui-là. Il n'est pas seul attaquant, il a quand même 4 des joueurs offensifs.
Ouais. Donc on retient effectivement la possibilité d'une fois voir un Oviedo. Sanchez qui est un petit peu dans le dur, mais qui retrouvera sa au prochain match, t'as dit, hein, qui retrouvera ses sensations et le but au prochain match.
C'est osé.
Lucien Denervo a osé.
C'est à Saint-Gall, si jamais.
Et puis, ouais.
Parfait pour se relancer.
Dans un stade plein, comme d'habitude à Saint-Gall. Vincent, t'as parlé de l'erreur de Noé Dussen. Je vous propose d'écouter l'analyse de Noé Dussen à la fin de la rencontre d'hier soir, et puis on en discute après.
Je trouve qu'on fait une mi-temps plus que correct. Après, je fais une grosse erreur qui concède le goal. Il nous coupe un peu les jambes juste à la 45e. Après, la deuxième mi-temps, je pense qu'on n'a pas trop d'occasions. On n'est plus dans le jeu, on n'est plus dans les duels, on perd beaucoup de duels. Et il marque après sur des contres, sur des rebounds. C'est frustrant parce que 3-0, ça fait mal. C'est difficile, ouais.
Ce but qui intervient juste avant la mi-temps, c'est ça qui vous a coupé? C'est ça qui fait mal?
Ouais, je pense que faut pas se cacher, je fais une grosse erreur. Je contrôle la balle, je la contrôle trop loin, il va dans le mondo, il marque. Quand on fait une bonne mi-temps, qu'on n'a pas recommencé ses efforts, tout le temps délicat. Première mi-temps, on a des possibilités pour marquer, pour aller faire des occasions. C'est vrai que là, le dernier petit geste, ça fait défaut. Mais voilà, quand on prend 3 goals, on peut pas revendiquer quoi que ce soit. Comme le coach a dit, je pense que quand on travaille, on a la chance. Et ça veut dire qu'on doit peut-être plus travailler, encore donner plus pour retrouver cette réussite qu'on a pas pour le moment. On a la hargne entre nous, on sent qu'on patauge un peu. C'est vrai qu'en 2024, tout nous réussissait. C'est vrai qu'on était très bien. Ici, c'est sur des faits de match qu'on se fait punir. Moi, je fais encore une fois une erreur. S'il n'y a pas cette erreur, c'est 0-0 à la mi-temps. On revient peut-être mieux. Peut-être début de saison, en 2024, fin d'année, on était peut-être plus agressifs, plus durs. Les contres, on les prenait et aujourd'hui, on n'arrive plus à les prendre.
Malheureusement, les semaines se suivent et se répètent. À chaque fois, on fait une bonne première mi-temps et on perd. C'est toujours frustrant. Et après, voilà, globalement, je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour gagner aujourd'hui ici et mérite à IB.
Voilà pour les réactions de deux défenseurs lausannois. Vous aviez encore envie de faire un petit tour de table sur Carlo Letizia. Tu étais au commentaire hier soir, je crois qu'il était sur le banc.
Alors, selon les infos qu'on a eues, Carlo Letizia était sur le banc, ça oui. Et son contrat n'a pas changé. Donc, ça veut dire que s'il avait une clause, mettons, si on regarde le nombre de matchs à Lausanne, il a 59 matchs, donc on peut imaginer qu'à 60 matchs, il y avait une prolongation automatique. Hier, si Thomas Castella se blesse, il va jouer. Et donc, il va entrer et il va prolonger apparemment à Lausanne. Donc, c'est ce qu'on peut supposer. Hein. On ne connaît pas les détails du contrat, mais apparemment, c'est ça. Et donc, ça veut dire qu'il est prêt et à disposition de l'équipe désormais.
Ouais, c'est entraîné normalement toute la semaine.
Donc, alors qu'il avait été à part la semaine d'avant.
Son épaule va mieux.
Oui, son épaule va mieux.
Oui, c'est ça.
Et qu'est-ce
retour
qu'on...
de blessure.
Voilà, on a quand même le 2-0 et le 3-0 du LS qui...
Ouais, le 3 d'IB.
De IB, pardon.
Ouais, le troisième, pour moi, Tu veux parler de Thomas Castalla,
en
Bédia. Fait.
Non, de Bédia qui, se retrouve seul.
Mais ça c'est typique Bédia. Hein. C'est le vrai renard des surfaces. C'est le vrai mec qui sait te marquer les buts parce qu'il est au bon endroit au bon moment. Mm-hmm. Et hier, il entre. Et franchement, c'est pas bon pour Cédric Eaton, encore une fois. Hein. C'est qu'il a essayé quelque chose, continue. Il a mis Eaton plutôt que Bédia. Bédia, il entre, il met deux buts. Il aurait pu mettre un triplé. On était à une tête qui passe de peu. Non, qui finit dans les mains de Castalla. Mais en gros, le casse du triplé de Bédia était là. Ce joueur-là, il est spécial et clairement, IB va avoir besoin de lui et voilà, il va cartonner. Il n'y a pas tellement de doute là-dessus.
Ouais, y en a un
il
autre,
va amener IB au titre.
Ouais.
Je m'en tiens.
Toujours.
Ouais, j'ai dit ça mi-décembre.
En tout cas, il y en a un autre qui va avoir besoin de Chris Bedia, c'est Giorgio Contini. On a sélectionné une toute petite partie de l'interview d'hier soir. Vous allez comprendre, on en parle juste après.
C'était votre 250e match de Super League. Ça représente quoi d'avoir autant de matchs à son actif ?
Pour que je ne suis jamais parti à l'étranger, alors je pense non, mais surtout que oui, je pense que les derniers 15 ans, j'ai fait beaucoup de matchs sur le banc, je suis constant sur mon travail, et c'est bien d'avoir ça, ça veut dire quand même que je fais quelque chose de juste.
Voilà, 250 matchs sur les bancs de Super League, il a toujours très bien bossé, on a parlé de Fabio Celestini ici avec Vincent la semaine dernière. Vaduz, Saint-Gall, Lausanne, Guetze, IB, ça marche souvent. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il aille, pour qu'il ait une chance à l'étranger, Giorgio ?
Bon, bah, on a déjà visé le titre, je pense. Ça serait déjà quelque chose. Puis bah, c'est clair que de passer à IB, pour lui, c'est un palier, clairement. On a vu qu'il a fait vraiment énormément de bien aussi en tant qu'assistant d'Yakin en équipe de Suisse. Il semblerait que sur le plan mental, il est très très fort, état d'esprit. Et puis là, ce qu'il est en train de faire, bah, il est en train de retourner toute la situation d'IB qui était tout au fond. Donc pour moi, c'est ça qui va faire la différence. C'est que s'il arrive à atteindre en tout cas le podium, voire le titre, bah, là, il aura une possibilité d'aller voir ailleurs.
Surtout que c'est pas cadeau pour lui, entre guillemets, c'est jamais cadeau à IB, mais s'il se rate, il peut dire, ah ben voilà, on est parti trop loin, c'est pas trop de ma faute. C'est un peu que du bonus. Et je pense que c'est dingue parce que là, ils ont fait que 2 points en 4 matchs contre Guetze et Winterthur. Sinon, c'est sans faute, sauf erreur. Donc, moi, je pense qu'ils ont ils ont gagné tous les gros chocs, tous les gros matchs. Donc,
ouais, il y a un peu des hauts débats quand même. Hein. Il est très bon à la maison et c'est un peu plus compliqué à l'extérieur.
Puis les prestations ne sont pas toujours complètement abouties.
Mais la force de frappe avec ce commissaire.
Mais il y a du mieux, c'est sûr.
Et puis même les transferts. Et puis le fameux Von Balmos Keller, il est extraordinaire.
Bien sûr.
Il sauve des points à IB, clairement. Hein, chaque match, il est présent, il est bien présent. Bedia qui est devant, qui fait la diff à tout moment. Ravelesson, c'est ça ? Au milieu de terrain, qui est incroyable aussi. Donc voilà, je crois aussi en termes de transfert l'hiver, à part Keller où il y a eu un changement, mais les transferts ont été très bons et c'est une réussite pour IB.
Ça veut dire que les transferts en été, ils ont été pour la plupart, mauvais.
Bon, après, il y a eu des blessés
et beaucoup,
aussi.
Voilà, beaucoup de malchance, enfin, je me souviens.
C'était un peu
ils arrivaient, les mecs, ils arrivaient, ils se faisaient les croiser. Quoi. C'était toutes les semaines un joueur.
Fasciné Conte, on n'a jamais vu. Ouais. Moi, je ne sais pas si ce joueur-là, il aurait pu faire quelque chose. Mais ouais, il est arrivé, il s'est blessé et puis il n'a pas joué. Quoi.
IB était dans la continuité de ce qu'ils avaient fait aussi avant, en étant champions la saison passée. Ils ont été champions sans être vraiment beaux sur le jeu. Et puis là, ils ont continué, je trouve, dans la même dynamique. Puis il y a dû avoir aussi quelque chose un changement d'entraîneur qui a été facile à prendre parce que les résultats ne suivaient pas, dur à prendre parce que tu prends un nouvel entraîneur sur 3 ans, je crois, 2-3 ans de contrat, et puis après quelques mois tu dois déjà t'en séparer. Donc moi je trouve que les choix ont été justes, et puis maintenant pour l'instant il s'avère payant.
Mm-hmm. Petit mot pour les fans de stats, parce qu'on parle de Contini, 250 matchs, c'est le record de l'ère Super League, donc depuis 2003, ça le place 18e je crois au rang des entraîneurs de Liga et Super League. Genre Gaguerre en a plus que lui, et record c'est pour, si vous le savez, vous êtes bon.
De l'air Super League.
Le record Liga plus Air Super League. L'entraîneur qui a le plus coaché en Suisse. Il y en a 2 en fait, sont égalité. Selon ce que j'ai trouvé. Hein.
Grèce.
Et l'autre. Et il est très très proche, phonétiquement très très proche de Grèce.
Il n'y aurait pas celui de Guetze là.
Non.
Guetze longtemps.
Il est très très proche de Grèce. Il a entraîné Bâle. Grosse. Ah,
Christian Grosse. Ah ouais, Christian Grosse. Bien joué.
Plus de 551 matchs, si je dis pas de bêtises. Ou 515, allez vérifier.
Vincent n'aime pas les quiz, mais il en fait, il nous prend en otage. Bien joué. Enfin,
c'était
un super, super petit quiz. Balibé va être chaud le week-end prochain, nous dit Rocksnake68. Je vous propose, pour terminer sur eBay, donc toi, tu t'es encore convaincu qu'ils peuvent aller au bout, donc champion?
Oui.
Non.
Je repose la question, hein, parce que
j'ai jamais participé à ce quiz.
Non, je repose la. Alors c'est pas un quiz, c'est une vraie question. Tu vois eBay vraiment
non.
aller au bout?
Non, j'y crois pas.
J'ai de la peine à y croire aussi. Toi, Lucien?
Ils ont été trop en dents de scie. Ils ont fait des résultats positifs négatifs. Je les vois pas aller jusqu'au bout.
Mais vous mettez qui alors? Parce que
Bâle est quand même bien
présent. En train de s'écrouler. Bâle, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à gagner.
J'ai quand même, je sais pas, Bâle me semble ok. Et puis, pourquoi pas un roman?
C'est ça.
Allez, Servette, pourquoi pas? On en parle dans quelques instants. Hugo, tu leur souhaites? Bah oui, avec le joli pull que tu as mis en plus au mois de décembre. Allez, un petit mot sur Yverdon, qui s'est imposé samedi soir au bout du suspense contre Winterthur, une victoire largement méritée. Je vous propose le film de cette rencontre avec Yannick Perret au commentaire.
Allez, bon ballon sur Aké. Il y a une véritable possibilité là. Si ce ballon d'Aké sera bien donné pour Tazar. Aké qui fait seul et qui marque. Le contre fulgurant d'Yverdon Sport. Ouais, on va tenter la reprise de volée par Sautier. Et c'est sauvé sur la ligne, c'était magnifique. Et c'est un peu le pire des moments pour Yverdon. On va revoir ce qui s'est passé dans les 16 mètres. La remise de Gomis. Et c'est Kongsro là qui vient shooter Sidler. Duel Zoufi-Bernardoni. Ouais, c'est magnifiquement tiré, la petite panenka de Luca Zuffi pour le 1 partout. Hadji tout en puissance qui va essayer d'alerter Comano. Le ballon est bon pour Comano. Attention à la conduite de balle. Ouais, il s'est trop excentré. Au centre de Dourer, il n'y aura personne pour reprendre ce cuir. Sautier. Oh là là, attention, le tac de Chetin. Et monsieur Doudic qui n'a pas hésité une seule seconde, il va changer son carton, ça va être l'expulsion pour Tobias Chetin. C'est Hazard, Baradji. Oh, le but de Baradji! C'est incroyable! Baradji qui vient de mettre un tir dans le petit filet de Capino. Et quel tir! Et c'est terminé, Yverdon qui vient chercher un succès plus que précieux.
C'est aussi pour ça qu'on fait du football, hein. Sincèrement, c'est pour vivre des émotions comme ça, c'est tellement incroyable. Et ce qui est génial, c'est que peu importe qu'on soit professionnel ou pas, tous les amateurs de football, même qui jouent, ressentent ce qu'on vient de ressentir ce soir. Bah, la semaine passée, c'était contre nous, donc on était bien dégoûtés et c'est aussi le pire sentiment. Et là, ça a tourné en notre faveur, c'est génial parce que je crois qu'on les met à 8 points, donc c'est vraiment en plus un concurrent direct, donc super. Et voilà, il faut continuer sur cette dynamique, on fait vraiment des bonnes choses en ce moment, donc qu'on arrive à être encore un peu plus tueurs.
Il est heureux, Paul Bernardoni. Fin de match digne d'un film à Hollywood. Franchement, c'était génial. Moi, j'étais au stade, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. J'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a eu un Yverdon-Winterthur il y a quelques semaines où Yverdon avait gagné 3-0, mais en étant très moche, on peut le dire, en laissant beaucoup le ballon à son adversaire. J'ai beaucoup aimé cet Yverdon-là qui a été un peu plus proactif et qui a essayé aussi souvent de jouer dans les espaces comme ça. Et je trouve ça assez intéressant. On n'a pas vu ça souvent sous Tramezzani.
Mais à ce stade, on s'en fout. Je minimise pas ce que tu dis, mais à ce stade, on s'en fout. Tu es avant-dernier, tu joues le dernier, tu les as battus il y a un mois, tu dois les rebattre, tu dois les enfoncer le plus possible. Et Yverdon a réussi à le faire, et je pense que c'est le plus important.
Oui, mais après la manière. Mais dans la manière.
Oui, après la manière, c'est cool, parce que ça donne des inputs à Yverdon de comment jouer les prochains matchs, etc.
Ouais, mais tu
mais
te
hier,
dis
tu dois gagner ce match.
Tu es à 11 contre 10 pendant tellement longtemps. Ce but, il arrive dans un moment tellement important, tellement clé. C'est un truc où, comme tu dis, tu finis ton adversaire. Et si tu marques pas ce but, à 11 contre 10, je pense que c'est toi qui as un coup derrière la tête, tu vois. Donc c'est pour ça que je voulais mettre ça en avant. Oui. Coach, je ne sais pas ce que toi tu penses, parce que on a vraiment deux visages, on a deux Yverdon très différents. On a le Yverdon qui va jouer bloc bas, qui va laisser le ballon à son adversaire. Puis là, hier, on est sur 60, à un moment donné, 65 ou 68% de possession pour Yverdon. Donc Yverdon sait aussi jouer au ballon.
Oui, bien sûr qu'ils savent jouer au ballon. Et après, ils ont des attaquants aussi pour maintenant qui sont plus en confiance aussi. On sent que, mine de rien, le Marquesano, il fait énormément de bien à Yverdon. Et puis après, voilà, ça fait plaisir aussi de voir Yverdon. Et puis ça montre aussi qu'ils ont un certain potentiel. Maintenant, il a fallu attendre la 96e avant d'avoir ce 2-1. Mais qu'est-ce qui fait du bien ? C'est sûr que quand tu sors sur. S'ils étaient sortis sur un 1-1, ça aurait été plus dur pour Yverdon que pour Winterthur.
Voilà.
Parce que Winterthur sortait quand même de résultats positifs à la maison. Ils sont redoutables aussi à la maison. Yverdon aussi. Mais là, celui-là, il fait vraiment mal, je pense, à Winterthur.
Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Hein. C'est-à-dire que c'était attendu. Tu joues à la maison contre Winterthur. Tu peux les mettre à 8 points. Donc la victoire, elle était largement attendue. Mm-hmm. Tout le monde attendait une victoire. Oui. Donc il y avait une sorte d'impatience dans le public. C'était assez incroyable parce que Yverdon n'a pas eu tant d'occasions que ça. Finalement, ils avaient le ballon, ils avaient la possession. Ils ont été, moi je trouve, meilleurs en première mi-temps qu'en deuxième. Ils étaient meilleurs à 11 contre 11 qu'à 11 contre 10.
C'est souvent
aussi parce que Winterthur a reculé un maximum. Mais j'ai trouvé formidable cette abnégation puis le fait d'y croire quand même jusqu'au bout.
Et sans leur meilleur joueur, en se privant de leur meilleur joueur.
Exactement, ouais.
Parce qu'il y a quand même la croisée d'ailleurs. Ouais. Cespedes quand même, blessé, pas blessé. C'est vrai que c'est assez dingue qu'ils arrivent à s'en passer.
Et je me disais hier soir, très franchement, là, à la 80, 85e, 86, 87, 90, je disais, mais qu'est-ce qui leur ferait du bien à ce moment-là.
Première minute.
Ouais. Oui, évidemment. Mais je dis, là, dans les moments où lui, c'est le mec, ça peut être le déclencheur qui va te permettre d'aller chercher ce but, marquer ce but.
Oui, c'est vrai.
C'est un exploit.
Mais ils ont gagné.
Ils
ont gagné. Et puis, ça donne raison. Ça donne raison à qui c'est qui a joué, qui a joué. Peut-être qu'il aurait pu apporter quelque chose. Alors, ça a fait cette différence sur un match quand Cespedes a centré et puis Marquesano a marqué dans un match. Mais là ils ont gagné. Ils ont fait l'essentiel.
On n'oubliera pas que Paolo Tramezzani, apparemment, il ne s'entend pas bien avec Boris Cespedes. Ou en tout cas, il ne l'apprécie pas autant que les observateurs, les journalistes ou les consultants. Lui, il préfère jouer avec Baradji et Wegowski. Et il le fait. Et est-ce qu'on peut lui donner tort sur ce match ?
Non, alors.
Non, mais Wegowski, c'est un joueur exceptionnel.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Sauf que le coach, il ne l'apprécie pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On vire le coach juste pour garder Cespedes ? Ou t'as le capitaine du bateau qui est là, et puis lui, il a pris ses décisions, et puis il va au bout de ses idées. J'aime beaucoup Boris Cespedes. J'ai rien contre lui. Hein. C'est un super joueur. Mais les résultats, ils donnent raison à Tramezzani. Alors, on fait quoi ?
Hier soir, la manière dont il exulte aussi Tramezzani, mais il prend Bernard Denis, mais il lui met des claques, quoi. C'était incroyable. Il le prend, puis tape, puis retourne à ta place. C'était assez fort comme réaction. Flavio, on l'a vu, hein, la petite phrase, on finira la saison comme Bernard Denis sans ses cheveux, ou comme Lucien, ou comme moi. Mais Bernard Denis, on va vous permettre de l'écouter encore une fois, parce que là, on a vu un peu le côté émotion après le match, mais il revient. Il analyse un petit peu mieux cette victoire d'Yverdon. On l'écoute.
On ne savait pas s'ils allaient venir nous chercher fort, s'ils voulaient avoir la balle, ou si plutôt ils voulaient nous la laisser, parce que on n'a pas trop l'habitude de ça. Donc, on a été quand même un petit peu surpris par rapport à ça. Mais on a quand même su ouvrir le score. Après, on a eu un petit moment de faiblesse sur le pénalty. Et c'est vrai qu'on n'a quand même pas été très, très... on a eu énormément la balle en deuxième, étant donné qu'ils étaient à 10, mais on n'arrivait pas à se créer d'occasion. Et on a cet éclair de génie à la fin de Moussa qui nous sort ça de je ne sais où. Donc tant mieux pour nous. Mais voilà, il nous reste encore du boulot. Il reste encore du boulot qu'on arrive à être un poil plus tueur, un poil qu'on sente un petit peu plus les choses. Mais bon, j'ai pas de doute sur ça.
Ça fait quand même le troisième penalty qui est concédé en deux matchs. C'est des fautes qui sont quand même largement évitables dans les 16 mètres.
Oui, très clairement. En plus, c'est un peu trois fois le même péno. Comme je leur dis, si vous n'êtes pas sûr d'avoir la balle, autant se mettre derrière, surtout dans la surface. Oui, il va falloir vraiment qu'on soit vigilant parce que ça peut nous mettre dedans alors qu'on ne concède pas énormément. On a juste concédé une frappe en deuxième que j'ai sortie. Puis après, on a quand même plutôt été solide. Donc, on a quand même une solidité qui est là. Donc, il va falloir qu'on soit un petit peu plus vigilant dans la surface.
Mais avec 8 points d'avance quand même maintenant, désormais sur Winterthur, on se sent quand même un tout petit peu plus léger ce soir.
Comme je leur ai dit avant le match, ils aimeraient être à notre place, il ne faut pas se leurrer. Et chaque match, ça doit être une finale. On doit se battre pour garder ces points d'avance parce que ces points d'avance sont précieux. Ils sont vraiment précieux, croyez-moi. Et donc voilà, après maintenant, ça va être la bataille avec Guetze. Et puis, on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, des victoires comme ça, ça doit donner encore plus de confiance. Mais bien évidemment, avoir 8 points d'avance, je les prends.
Et prochain match pour Yverdon à Servette et à Sion. Je vous propose d'en parler de Servette. Servette qui s'est imposée pour la 5e fois consécutive. Cet après-midi, c'était contre le FC Zurich. Vincent, Servette, t'as pas plu des masses ces dernières semaines. Pas non. Que toi d'ailleurs, hein, je pense de manière générale.
Non, je les ai critiqués assez clairement la semaine dernière en disant que, ok, il y a les points, mais si t'as pas de jeu, t'es en sur-régime et un jour, le moteur il explose et c'est difficile d'aller au titre en jouant comme ça. Steve Rouillet, il le reconnaît aussi à l'interview, hein, il dit on est sur le fil du rasoir, peut-être qu'on l'entendra après, je veux pas trop spoiler, exactement. Mais en gros, ok, il y a une super bonne première mi-temps avec un Servette que je trouve en maîtrise dans ce match contre Zurich. Puis la deuxième, en fait, ça commence à plus tenir. Il y a Rouillet qui se bat sur chaque ballon et Mal qui fait quelques arrêts. Mais s'il n'y a pas la main qui annule le but au milieu de terrain, parce que Servette menait 2-0, que Zurich venait de mettre le 2-1, les remplaçants mis par Moniz, ils mettaient quand même du rythme. Et si ce but-là de Conceição n'est pas annulé pour une main antérieure au milieu de terrain, moi, je sens un Servette qui s'écroule. Ils sont en train de lâcher dans ce match, ça devenait compliqué. Et puis ça a mis un coup sur la tête des Zurichois, puis après ils n'ont pas réussi à réagir, puis à la fin il y a le 3. Mais en gros, dans l'idée, je ne change pas d'avis par rapport à la semaine dernière. Je trouve que Servette n'est pas très plaisant dans le jeu, et ils ne sont pas non plus sécurité absolue derrière.
Ouais. À ce sujet, il y a Grégory qui, dans le chat, demande ce qu'on pense justement de cet abandon du beau jeu d'Eberly, puis il se la joue un peu. Alors, il parle de l'idée de l'exemple de Didier Deschamps. Il se la joue un peu à la Didier Deschamps. Voilà, c'est pas beau, mais c'est efficace. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est moi, moche et méchant, Servette, depuis 5 semaines. Pour moi, ça peut tenir un moment, mais ils peuvent pas devenir champions comme ça. Tu peux pas te contenter de quelques fulgurances de tes grands joueurs Konya, Stevanovic, Kuteza avant et ensuite défendre ou alors si c'est ça, s'ils deviennent champions en jouant comme ça, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour le football suisse. Moi, je souhaite vraiment pour les Servettiens qui continuent à gagner des trophées. C'est un club qui bosse très bien depuis plusieurs années, mais là ces derniers mois, si on aime le football, on peut pas se réjouir de ce qui est en train de se passer à Servette.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on y revient. On revient sur les dynamiques. On parle de la latte, de l'équerre de Papa Podelos aujourd'hui. C'est juste, hein.
Un peu près.
Allez, os.
Jouer des meilleurs arbitres.
Mais tu vois, et là, cette main, c'est en faveur de Servette. Mmh. Et ils sont dans cette dynamique-là. Et voilà, c'est une équipe qui a tout pour elle à l'heure actuelle. Ok, elle n'a pas le plus beau jeu, mais en même temps, tu veux gagner. Et puis c'est comme ça que tu avances. Et tu as une confiance. Même si tu joues moins bien, tu as une confiance qui doit être incroyable. Parce que tu sais que tout événement va être en ta faveur et non contre toi. Et va gagner à Zurich, qui sortait d'un super match du week-end passé. Pas évident. Et puis surtout, il y a des joueurs qui confirment. Le Hendoy, il était méconnu du public. Et là, tout d'un coup, il est présent. C'est lui qui met le dernier goal aujourd'hui. Varela, il commence les matchs. Ok, il sort à la mi-temps, mais il est quand même présent. Avant, on était trop sur que Kuteza. Et puis maintenant, on commence à remettre des joueurs sur les ailes qui expliquent aussi que ces résultats peuvent plus facilement venir. On avait trop la dépendance Kuteza. Mmh. Que ça.
Je suis assez d'accord avec ça. Et j'aime bien répéter que dans 10 ans, si Servette gagne le championnat,
à la manière,
personne ne se souviendra comment Servette avait joué. Donc à la fin, on s'en fiche, un trophée.
Ah oui,
dans l'armoire et puis on s'en bat un petit peu les on s'en fiche quoi.
Puis il a fallu attendre quand même, il y a eu la blessure de Frick, il y a Mal qui a repris la place de titulaire, il y a eu Séverin qui s'est blessé, il y a Adams qui a pris la place de titulaire, il y a Antunes qui a été blessé, maintenant c'est Stevanovic qui se retrouve en 10, il y a Kuteza qui est moins bien, il y a Crivelli qui a été absent. On a senti aussi ses absences quand même évidemment au niveau offensif, mais moi je trouve que maintenant, moi en tout cas, ils font le nécessaire, c'est-à-dire qu'ils gagnent et ils mettent des buts au bon moment.
Alors Hugo a déjà répondu à la question, mais il y a plein de gens qui voudraient savoir s'ils peuvent aller au bout en jouant comme ça. Hugo, t'as dit non.
Oui, pour moi, oui. Ouais, ils peuvent aller au bout. S'ils sont dans une dynamique comme ça, tant mieux. Et tant mieux si ça continue comme ça.
Je dis pas qu'ils peuvent pas, mais En fait, je souhaite pas de mal à Servette. Je dis juste que, vu le jeu proposé, je suis inquiet pour la suite. C'est-à-dire qu'arriver dans le top 6, ok, bien sûr. Mais jouer ce tour final où il y a des équipes qui vont commencer à peut-être durcir ou à plus te mettre sous pression, ben, je sens que cette équipe-là, de temps en temps, elle est pas loin de l'écroulement.
La rupture, ouais.
C'est un peu ce sentiment. Après, vraiment, je souhaite pas de mal à ce club. Hein. Je veux pas que les gens me...
Regarde toute la séquence du 2-2 annulé. C'est quand même lunaire, comme ils arrivent à jouer dans le camp servettien.
Ouais. Mais j'ai quand même, quelque part... Je me dis qu'ils ont cette expérience maintenant. Tu vois, ils ont quand même gagné cette coupe. Peu importe. Hein, on a souvent dit, ça s'est joué. Voilà, moi, j'ai jamais vu Sabatini rater un penalty, Stephen rater un penalty. Enfin, voilà. Il y a quand même une part de bol dans la victoire du trophée. Mais il y a le trophée. Le trophée est là. On n'en a rien à carrer de savoir comment ils l'ont gagné. Voilà. On se souviendra, les trois penalties, les trois balles de match ratées. Ça, on s'en souviendra pour le côté émotif. Mais pas pour le côté. Comment a joué Servette dans cette finale? On s'en souvient plus. Voilà,
assez bien pour gagner.
Voilà, à part les fans. Tu vois, c'est ça que j'ai. Et ils ont cette expérience de la saison dernière où finalement, ils ont à un moment donné, ils sont passés devant. Et après, ils savaient être le chasseur, ils savaient moins être le chassé. Cette expérience de la saison dernière en championnat, ils doivent...
Mais c'est vrai, mais ils avaient trois tableaux.
Oui.
Ils avaient trois tableaux.
Non, là, mais plus à un moment donné.
Mais là, ils n'ont plus qu'un tableau depuis un petit moment. On en a parlé souvent. Hein.
Mais tu m'expliques pas pourquoi ils font 45 minutes où ils mènent 2-0, où tout se passe bien, où Zurich fait que des tirs de loin et il n'y a pas de danger. On prend le 2-1 et on prend en fait le 2-2.
Mais parce que la saison dernière, ça
en termes d'expérience et de gestion, c'est aussi du coup pas si convaincant que ça.
Oui, alors je comprends. Ça manque une constance. Tu regardes le match à Getze, c'est un miracle. À la Tuilière, on a l'impression que c'est un club de première ligue qui veut se qualifier en coupe. Enfin, je dirais, c'est quand même en termes de substance et de durée.
Oui, mais la différence avec la saison dernière, c'est que si je cherche dans mes souvenirs, je me trompe peut-être, mais la saison dernière, il y a eu cette volonté de continuer à bien jouer. Là, on est passé dans un truc, les gars, il faut faire des points, parce que c'est vrai, t'as pas très bien commencé son année 2025. Là, maintenant, les mecs, on fait des points, et puis on s'en fiche comment on gagne, on s'en fiche comment on les fait, ces points, parce que ce qu'on veut, à la fin, c'est un titre. Parce que tu peux jouer bien tout ce que tu veux, à la fin, si tu termines deuxième, ou sixième, ou huitième, t'as rien gagné.
Non, donc, mais clairement, l'époque Alain Gaguet où Servette remonte un peu, évidemment, mais remonte en Super League, ça jouait hyper bien. Tout le monde disait, mais Servette, c'est magnifique et c'est super cool à regarder, ce qui est vrai. Et le résultat, ça t'amenait pas vers un potentiel titre. Mm-hmm. Et Weiler arrive, il veut ce jeu très vertical au début. Après, il a un peu changé d'avis et il a repris un peu le jeu de Servette. Eberle, il est un peu dans la continuité de ce que Weiler avait fait. Et si au final ça donne un titre, on dit juste bravo. Ouais, moi,
mais
Weiler
est toujours là, tu vois, c'est
mais
ça que je veux dire. C'est que Weiler, il était sur le terrain la saison dernière, aujourd'hui il est dans les bureaux, mais il a cette expérience, il peut amener peut-être à Thomas Eberle son expérience, son expertise. Et puis
mais
est-ce dire,
que c'est assez solide
comme
pour jouer le 1-0 à chaque match?
Je ne sais pas.
Je ne pense pas.
Ça, je ne sais pas. On écoute vite Steve Rouillet, tu l'as teasé tout à l'heure, pas de souci. Et puis ensuite, il y a des questions concernant justement le défenseur du Servette FC.
Voilà, 5 de suite, c'est bon pour le classement, pour la confiance, pour l'équipe, pour tous les joueurs. Et voilà, on surfe sur la vague. À nous d'améliorer certaines choses aussi. On ne peut pas non plus trop souffrir à chaque match. En deuxième mi-temps, c'était un peu compliqué. Voilà, on est un peu sur le fil du rasoir, mais au final, voilà, on arrive à remporter ce match avec une bonne première mi-temps malgré tout.
Justement, la première mi-temps était excellente. Très peu d'occasions laissées finalement aux Zurichois. Vous avez été vraiment cadenassé derrière. On a vu un 11 très compact défensivement.
Ouais, je pense que c'est aussi la clé du succès, d'être bon défensivement et puis jouer bien les coups offensivement. Aujourd'hui, on a été réaliste en première mi-temps avec ces deux buts et on a su rester solide jusqu'au bout, même si on a pris ce but en début de deuxième qui nous a un peu fait reculer. Voilà, ils ont mis la pression, on a fait un peu de rond. Là, on a aussi eu pas mal de chances parfois. Ils ont été aussi très offensifs. Donc, c'est une victoire un peu avec les tripes aujourd'hui et ça fait toujours plaisir de gagner comme ça. On fera les comptes en fin de saison, je pense qu'il faudra des questions nous-mêmes aujourd'hui. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont au même niveau et voilà, chaque match est important. Aujourd'hui, on a réussi à faire un pas de plus en avant. Et voilà, faut pas trop calculer, je pense que c'est un peu trop pour le faire. On essaie de prendre match après match, essayer d'obtenir de bons résultats. Maintenant, ça fait 5 de suite. Pourquoi pas continuer? Je pense que l'équipe est en pleine confiance et là, juste à améliorer certaines choses, comme j'ai dit avant. Et après, voilà, on verra bien ce qui va se passer.
Merci à Steve Rouillet pour la mention match après match. Ça fait plaisir. On a plusieurs questions concernant le défenseur du Servette FC. Nati, doit-il y aller ou pas? Il y avait Mourati Akino au stade aujourd'hui.
Pour moi, humainement, ça récompenserait un super parcours. C'est vraiment un joueur qui fait du bien au championnat suisse. Mais je trouve qu'on se met dans la peau de Murat Yakin. Tu as justement ce luxe de ces mois de mars où tu peux construire peut-être pour la suite, pour l'avenir 2026 plus loin. Pour moi, ce ne serait pas une bonne chose quand même, malgré tout, dans une optique de construire pour l'avenir du football suisse. Parce qu'on arrive gentiment à une fin de... On a déjà trois qui ont arrêté après l'Euro. On arrive au bout de cycle, un peu de cette génération dorée. Donc pour moi, tu dois construire l'avenir et malheureusement... tu devrais pas le prendre.
Ben pour l'histoire, ce serait super joli. Enfin, ah oui, ça, pour dire la vérité, ah ouais. Ce serait cool pour Sibrouiller. Il a fait toute sa carrière en Suisse. Ben, il y aurait eu ce petit truc de ah, ok, il aurait eu au moins une qualif. Maintenant, je trouve difficile. Comme dit Hugo, c'est vrai que le but, c'est pas ces matchs de prépa de faire plaisir aux gens. Il y a aussi un côté, les gars, il y a une Coupe du Monde, il faut se qualifier, il faut y aller. Enfin,
ouais, faut déjà se qualifier. Hein.
Voilà.
Ça va pas être facile. Koutessa, un mot sur Koutessa.
Si Murat Yakin était venu voir Derek Koutessa aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas le sentiment qu'il a fait le match qui va le convaincre. Alors, et je pense que Derek Koutessa doit le penser aussi. Hein. Il est sorti très frustré. C'était compliqué pour lui aujourd'hui. Et ça fait un peu quelques temps que ça devient qu'il a plus l'impact qu'il avait avant. On parlait de la Koutessa dépendance à Servette. Là, il gagne 5 matchs de suite et il n'est pas à chaque fois impliqué. Aujourd'hui, c'est plus la Stevanovic dépendance.
Ouais, bah peut-être que le jeu de Servette peut péjorer dans les performances aussi de Koutessa. Ça, c'est possible aussi, hein, comme il a aussi moins le ballon et puis quand il l'a, bah il en fait plus bon usage. Mais après, il ne faut pas tout remettre en question sur une série de 3-4 matchs qu'il vient de faire. C'est quand même un joueur qui, au niveau Super League, je trouve, au niveau offensif, il fait bien la différence. Maintenant, est-ce qu'il va profiter de ce moment-là pour pouvoir être sélectionné? J'espère évidemment pour lui. Mais
espérons que le staff d'équipe de Suisse ne regarde pas uniquement ce match d'aujourd'hui.
Et puis j'ai le souvenir que quand il est appelé la première fois, il est adoubé par Shaqiri aussi. Donc, qu'on parlait de manière assez élogieuse. Donc, ça pourrait l'aider aussi, je pense, dans la continuité.
On parlait de la Nati. Il y a aussi Magnan, qui est, lui, avec la Suisse M21. Il y a une question très intéressante. Non, alors pas Ludo, Théo Magnan. Ludo, lui, il ne joue plus depuis un moment. Elle est où, cette question?
Je l'aimais bien.
Voilà. Est-ce que Eberly, je te la pose à toi, Lucien, est-ce que Eberly a enfin trouvé comment utiliser Magnan efficacement? Son énergie a l'air de soulager Cogna, qui a retrouvé son meilleur niveau.
C'est toujours un petit peu le dilemme avec Magnan. C'est que les absences font qu'il joue à un certain poste. Et quand il n'y a plus les absences, c'est plus lui qui joue, il se retrouve remplaçant. Et plutôt joker de luxe, parce qu'il joue n'importe où, n'importe quelle position. Mais tant mieux, s'il peut enchaîner ses matchs, oui, c'est un milieu de terrain à la base. Hein. Après, il a fait latéral, je crois que juste derrière dans l'axe, il n'a pas joué, je crois. Je ne suis même pas sûr, peut-être certains bouts de match, il a même joué derrière dans l'axe. Mais non, pour moi, oui, c'est un très bon élément. Après, il ne faut pas tout dire, ouais, ok, il a joué aujourd'hui là-bas, c'est le meilleur, etc. Par rapport à Cogna, oui, Cogna peut peut-être un peu plus se montrer. Mais je pense que le jour où les autres joueurs reviendront, Magnan, malheureusement, repassera sous le banc.
C'est vrai qu'on a presque de la peine à se souvenir de quel est son rôle de base.
Moi, je l'ai vu latéral la première fois.
Ouais, latéral droit.
Mais c'est un peu Alain Rocha. il avait aussi ça. À la force d'être couteau suisse, on ne sait plus vraiment où t'es. T'es un peu indispensable nulle part. Et à la fois nécessaire partout. Mais je pense que ça peut le
Mais moi, je l'aime bien en 6. Vraiment, je l'aime bien en 6. Je trouve qu'il est plus intéressant en étant box-to-box, l'énergie qu'il peut mettre, etc. Et puis, du coup, par moment défensivement, sur le côté, je le trouve en difficulté. Alors que là, au milieu, en ratisseur de ballon, et surtout, petits espaces, il arrive très vite sur le joueur, c'est plus difficile pour l'adversaire. Et Cogna, il peut aussi s'appuyer là-dessus, parce que oui, le 1-0, Cogna, il est complètement sur le côté, excentré, et puis c'est lui qui fait la passe pour Stevanovic. Donc, au final, ça peut être utile. À l'époque, il y avait Doulin qui avait ce rôle-là, et moi, Théo Magnan me fait un peu penser à Doulin dans son impact.
Bien. Je trouve que c'est une très belle conclusion. Je crois qu'on pourra en reparler de Magnan, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. C'est un de ces joueurs de l'ombre qui font un très très bon job, comme vous, les gars. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas dans l'ombre, évidemment. Vous faites du bon job. Ouf, je me suis sauvé. Merci Lucien.
Merci à toi.
Merci Vincent.
Avec plaisir.
Comme d'hab, au top. Merci Hugo pour ta visite. Tu reviens
Merci
quand tu veux.
Avec plaisir.
Merci à vous pour toutes vos questions, toutes vos sollicitations. Vous nous retrouvez à partir du lundi matin, évidemment, en podcast. La semaine prochaine, on a une petite surprise pour vous. Et oui, match après match va se délocaliser. On vous en dit pas plus. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao !